Ce soir, 9 mineurs interpellés à Aulnay-sous-Bois après des guet-apens sur des sites de rencontres, des guet-apens homophobes suivis de violences, de vols, parfois de viols aussi. Et ces histoires-là, elles sont nombreuses, elles se multiplient. Laurent Valdiguier nous a rejoint du journal Marianne. Bonsoir à vous, Laurent Valdiguier. Les premiers faits remontent au 15 avril dernier. Racontez-nous ce qui s'est passé ce 15 avril.
Ce 15 avril dernier, il y a un jeune homme de 27 ans qui croit avoir un rendez-vous galant à Aulnay-sous-Bois. Il a contracté ce rendez-vous via un site de rencontre. Et là, au lieu d'un rendez-vous galant, il tombe sur cette bande d'une dizaine de jeunes, apparemment, puisqu'ils ont été, arrêtés, ils sont 9 arrêtés par vague entre hier et aujourd'hui. Et c'est vrai qu'ils le rouent de coups, ils le mettent nu, ils le violent avec un bâton, ils lui volent sa carte bleue, ils lui volent sa voiture.
Il l'aurait contraint également à ingérer des excréments. Je le dis parce que ça montre à quel point c'est violent.
C'est violent. C'est les voisins c'est des gens qui crient. Donc il y a une patrouille de police qui arrive, qui n'interpelle personne, mais qui ce jour-là les met en fuite. Et puis le lendemain, avec sa voiture, rebelote à Aulnay. Et là, cette fois-ci, la police intervient et découvre dans le coffre de la voiture un autre jeune homme qui a 17 ans celui-là et qui pense avoir eu lui aussi un rendez-vous galant. Donc on sait qu'on est, la police sait qu'elle est dans le cadre d'une bande qui agit toujours sur ce même mode opératoire du guet-apens homophobe. Et elle a fait ses coups de filet hier, après avoir, j'imagine, ça je ne le sais pas précisément, mais avoir fait les bandes téléphoniques, les surveillances, les vidéosurveillances.
Et c'est là que le profil des personnes, des 9 personnes interpellées, interpellent. Voilà, ils sont 9 mineurs, de 14 à 16 ans.
Exactement, ils ont 14 à 16 ans. Et c'est vrai que c'est ce qui choque dans cette explosion, parce que c'est quand même une explosion. Il n'y a pas de statistiques officielles, mais enfin, il y a des témoignages qui sont assez précis d'un guet-apens homophobe par semaine depuis 2017, d'après les recoupements faits par les associations. C'est cette explosion de ce mode opératoire qui, au fond, sur fond d'homophobie, évidemment, grâce au site de rencontre, et qui a souvent pour but crapuleux de voler un téléphone, une voiture ou un appareil portable. Ce qui est le cas d'un procès qui s'ouvre aujourd'hui exactement sur ce mode opératoire aux Assises de Paris.
On en parle aussi avec notre invitée Cathy Richard. Vous êtes avocate pénaliste, vous êtes l'avocate de la famille d'une victime d'un guet-apens homophobe, et on va en parler évidemment. Et on est aussi avec Thomas Vanpouille, vous êtes directeur de la rédaction Têtu, et votre magazine a réalisé une grande enquête sur ces guet-apens homophobes. Ils sont en hausse, donc, ces guet-apens ?
Alors, il n'y a pas de statistiques officielles sur ces sujets-là. Donc, effectivement, les seuls chiffres qu'on a, c'est le produit des enquêtes de Têtu. Mediapart avait fait aussi une enquête l'année dernière à la même époque. On arrivait à la même moyenne, c'est-à-dire un par semaine, effectivement, en 2022. C'est un phénomène qu'on connaît déjà depuis 30 ans. On le connaît depuis l'arrivée des messageries dans les années 90. Il y avait eu un premier sujet dans Têtu en 2000, ce qu'on appelait à l'époque les truqueurs, c'est-à-dire cette idée d'aller piéger, d'aller cibler des hommes gays dans un motif crapuleux, effectivement. C'est le préjugé du ciblage des hommes gays qui est homophobe, puisque donc on va aller cibler les hommes gays avec l'idée en tête qu'ils vont être plus faciles à appâter, ils vont se déplacer plus facilement pour avoir un rendez-vous des relations sexuelles.
Via ces sites, est-ce qu'on peut parler de ce fameux site Coco qui revient régulièrement dans l'actualité et malheureusement dans ces histoires sordides?
Alors Coco, pareil, nous au Têtu, on a l'air dessus depuis 3-4 ans. On avait fait une grosse enquête aussi en 2021. C'est un site à l'ancienne, si vous voulez. Visuellement, quoi. C'est vraiment un site comme l'internet de la fin des années 90 qui garantit beaucoup d'anonymat en fait aux personnes qui s'y inscrivent et qui du coup est devenu au fil des années un repère de une chose plus ou moins sordide, c'est-à-dire il y a beaucoup d'hommes qui ont une sexualité pas forcément très assumée, qui y vont pour vivre soit leurs fantasmes, soit des rendez-vous discrets.
Et puis pour cette même raison, il y a des homophobes qui savent qu'ils peuvent trouver des victimes potentielles.
Voilà, sans laisser de traces, sans devoir laisser de nom, ni de numéro de téléphone, ni rien. Et donc, ils vont effectivement cibler là des victimes qu'ils pensent plus faciles à piéger, dont ils pensent qu'elles vont pas se défendre, dont ils pensent qu'en cas de... Une fois que le crime sera passé, elles n'iront vont pas porter plainte parce qu'elles auront trop honte. Et donc, toute cette somme de préjugés, en fait, signe l'homophobie du guet-apens. Et c'est pour ça qu'on parle de guet-apens homophobe. Et c'est aussi pour ça que quand c'est... même s'ils partent sur un motif crapuleux, quand ça dégénère en violence, souvent, on assiste effectivement à des déchaînements de violence assez insensés par laquelle transparaît la haine homophobe, en fait. L'histoire d'aller violer la personne avec un bâton, des choses comme ça, c'est des choses auxquelles on assiste régulièrement. Ça peut se terminer aussi par un homicide, hein. On a aussi régulièrement des morts. Et c'est effectivement un phénomène sur lequel on alerte les autorités depuis longtemps. Coco, encore une fois, têtu, alerte depuis 2021. Et Gérald Darmanin, on a commencé à en parler cette année parce que Coco a été mis en cause pour le meurtre dans l'histoire de la mort du
jeune Philippe à Grande-Synthe. Et on peut parler d'ailleurs du site Coco et pourquoi c'est si difficile, visiblement, d'inquiéter le site Coco hébergé à Guernesey et un petit peu à l'abri, visiblement, des autorités.
Il était hébergé en France il y a 3 ans.
Pardon ?
Il était hébergé en France il y a 3 ans. Guernesey, c'est récent.
Et on comprend pourquoi.
Oui.
Maître Cathy Richard, je disais, vous êtes donc avocate pénaliste, vous défendez la famille d'une victime de ces guet-apens homophobes. Le site Coco, là encore, était impliqué ?
Encore, le site Coco. Effectivement, le site Coco, il n'y a pas de modérateur. On y fait un peu ce qu'on veut. Et puis, c'est vrai que on y trouve des gens qui n'assument pas forcément. Donc, moi, j'appelle le site Coco, j'ai déjà dit, pour moi, c'est du dark web dans le web normal. Voilà, c'est-à-dire que c'est l'idée que tout est caché, mais à portée de main de tous. Voilà. Et donc, dans ce dossier qui était le mien, on avait une bande de plusieurs jeunes, là encore, jeunes garçons, qui avaient décidé de cibler des homosexuels. Alors là, ils allaient même plus loin. C'est-à-dire d'abord, ils vérifiaient que l'homosexuel en question avait une vie avec une femme, des enfants. Donc, ils allaient sur leur site Facebook ou autre. Et une fois qu'ils savaient que la personne qui avait une envie de rencontre gay avait une famille et qui...
Ils ciblaient les doubles vies, entre guillemets.
Silence, entre guillemets. Et donc, ils ont commis comme ça plusieurs agressions à Enghien-les-Bains. Et puis ensuite, il y en a un qui a continué seul et qui a continué effectivement jusqu'au meurtre. De Michel Solosi, effectivement, qui a été tué dans des conditions atroces chez lui.
Comment ça s'est passé? Est-ce qu'on peut vous demander? Et
là, effectivement, alors Michel Solosi, il aurait déposé plainte, lui, parce que il était gay tout à fait assumé. Il avait effectivement une femme, une ex-femme et des enfants, mais il s'était séparé et il vivait sa vie d'homme et père de famille et homosexuel. Et puis il a rencontré ce garçon et il lui a donné rendez-vous chez lui et puis il l'a tué dans des conditions sordides. Alors il faut savoir que c'est quand même un jeune homme qui a commencé en disant il était amoureux, que c'était une figure maternelle pour lui, etc., etc., qui se posait des questions lui-même sur sa sexualité, et puis que ce serait un geste de Michel qui l'aurait fait péter les plombs. Donc il nous a baladé avec ça, alors qu'en fait il y avait l'autre affaire avant, dont on savait qu'il faisait partie d'une bande qui faisait des guet-apens. Et puis ensuite, il est parti sur le terrain de la démence.
Lui, en tout cas, a été interpellé.
Lui, il a été interpellé, il y a une instruction, il a été condamné. Et ce que je regrette, ce que je déplore toujours, c'est que dans cette affaire, moi, je connaissais l'existence des agressions préalables avec d'autres jeunes, et je demandais que soient mises en lien, que soient jointes les deux procédures, et on m'a refusé la jonction des deux procédures. On avait deux juges d'instruction qui s'occupaient de deux choses différentes, et donc ça a été vraiment au forceps qu'on a réussi au dernier moment à l'audience de la cour d'assises à faire valoir l'autre procédure pour montrer qu'on n'était pas du tout dans un cas isolé, qu'on était bien dans le cas de quelqu'un qui faisait partie d'une bande, qu'en fait c'était beaucoup plus carré que ce qu'ils voulaient bien nous laisser croire.
Alors justement, on est avec une autre invitée, Sarah Brett. Vous êtes journaliste à Mediapart, co-réalisatrice du documentaire « Guet-apens, des crimes invisibles ». Vous avez mené l'enquête avec votre équipe pendant des mois. Vous êtes plongée dans ces dossiers judiciaires. Pourquoi déjà vous parlez de crimes invisibles ?
Alors, on parle de crimes invisibles parce que, en fait, ces crimes et ces délits, puisqu'on parle d'agression et également d'homicide, On ne les voyait pas, on n'en parlait pas jusqu'à il y a peu de temps. C'est ce que disait Thomas Vanpouille, la presse spécialisée, alertée déjà. Mais c'était quand même un sujet qui était complètement hors des radars. Et nous, c'est quelque chose qu'on a pu observer sur le terrain. Moi, quand j'étais journaliste pour l'agence France Presse en région parisienne, j'ai été confrontée en 2018-2019 à plusieurs cas de guet-apens homophobes. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à se dire ensuite, il faudrait qu'on fasse une grande enquête là-dessus parce que ce ne sont pas des cas isolés. C'est présenté dans la presse quotidienne régionale comme des faits divers, souvent traités un petit peu sur un ton un peu léger. Mais nous, on avait déjà cette intuition qu'il s'agissait d'un phénomène assez massif et assez ancien.
Comment on explique qu'on ait traité ces agressions extrêmement violentes, parfois mortelles, à répétition, comme de simples faits divers ?
Parce qu'on les voyait déjà comme des faits isolés et surtout, on ne voyait pas forcément le caractère homophobe de ces faits. Pendant très longtemps, ce que disait tout à l'heure Thomas Vanpouille, les policiers parlaient de truqueurs. On parlait d'affaires crapuleuses, on rentre chez les gens pour leur voler des choses, etc. Et effectivement, parfois, ce sont des agressions qui se doublent de vols. Mais quand on se penche un peu dans le détail, on comprend assez vite que ce sont des agressions dans lesquelles les hommes gays sont ciblés en raison d'un certain nombre de préjugés. Ils seraient faibles, ils ne déposeraient pas plainte. Et il y a aussi ce caractère punitif dont parlait Cathy Richard, l'idée qu'on va aller corriger des gens qui n'ont pas des bonnes mœurs, en fait, ou alors qui ont des vies cachées. Et en fait, tout ça fait qu'on ne voyait pas l'homophobie, on ne la nommait pas, et encore aujourd'hui, on ne la nomme pas. Et c'est ce qu'expliquait très bien Cathy Richard dans le cas du meurtre de Michel Solossi. C'est que pour faire reconnaître le caractère homophobe, ça a été un combat judiciaire acharné. Et ce qu'on montre dans notre documentaire Guet-apens des crimes invisibles, c'est que les victimes eux-mêmes, ce sont souvent à eux d'aller apporter la preuve à la police qu'ils ont été ciblés car homosexuels. Parce qu'on dit, ah ben non, c'est des violences, ah ben non, c'est des vols, c'est le hasard, etc. Mais à partir du moment où on cible des gens parce qu'ils sont gays, par des applications de rencontres gays ou sur des lieux de rencontres en extérieur gays, ça semble évident que ce sont des délits homophobes.
Thomas Vanpouille, justement, sur cette question, parce que ce documentaire très intéressant de Mediapart soulève aussi la question de la réponse de la justice et de la police. On est dans un pays où l'homosexualité a été dépénalisée en 1982. Est-ce que vous avez, vous, des informations sur la façon dont la police accueille les victimes de ces pièges ? Est-ce que la circonstance aggravante d'homophobie entrée dans le code pénal en 2004, est-ce qu'elle est bien appréhendée par les magistrats ? Je vous entends tous les deux là-dessus. Allez-y, Thomas Vanpouille.
Oui, effectivement, ça fait seulement 20 ans qu'elle existe. Non, il y a une difficulté encore, déjà parce que l'argument souvent avancé par la police, et y compris par les juges d'instruction au départ, c'est s'il n'y a pas eu d'insulte homophobe, s'il n'y a pas eu... Il n'y a pas de preuve que c'est homophobe, ça peut être autre chose si le motif est crapuleux. Et donc, il y a une difficulté à faire savoir que les préjugés sur lesquels le crime repose. On a eu le même cas, si vous vous rappelez, il y a 18 ans maintenant, au moment de l'affaire Ilan Halimi, ce jeune juif qui avait été ciblé, pareil, par un gang mafieux qu'on avait appelé le gang des barbares, et qui avait été ciblé parce que ses agresseurs, devenus ses bourreaux, pensaient qu'un juif c'est riche et que donc ils allaient pouvoir en tirer une rançon. Et la famille, la défense, les avocats de la victime et les associations juives à l'époque avaient beaucoup interpellé les pouvoirs publics pour qu'on reconnaisse le motif antisémite du crime, même si le crime était au départ motivé par une raison crapuleuse. Là, c'est la même chose, en fait. On cible les gays parce qu'on leur prête des faiblesses ou une facilité à se faire avoir. Et aussi, il y a un vieux fond de haine et qui, d'ailleurs, ressurgit sur les moments de violence. Et donc, les avocats, y compris ce matin, vous parliez du procès qui s'est ouvert ce matin aux assises, qui est un procès de deux guet-apens homophobes qui se sont déroulés au domicile des victimes. Il faut quand même le dire, c'est pas seulement à l'extérieur ou dans des caves ou dans des banlieues, etc. Ça peut être chez vous, à domicile. C'est pas forcément non plus sur Coco, hein, ça arrive maintenant sur les gros sites, les grosses applis, y compris Grindr. Les avocats disent non, c'est pas homophobe, ils l'ont ciblé parce que comme il était gay, ils se sont dit que ce serait plus facile. Ah pardon, mais ça signe l'homophobie du crime. Et il y a encore une difficulté, alors soit au moment de la prise de plainte par la police, qui par mes connaissances, soit au moment de l'instruction, parce que le juge d'instruction va considérer que le motif homophobe va être difficile à prouver aux assises et qu'il vaut mieux sous-qualifier qualifier le crime, voire le qualifier en correctionnel pour qu'il soit condamné plus facilement. Et vous avez, il y a eu encore un cas en mars d'un guet-apens homophobe qui avait tourné dans un déferlement de violence, qui devait être jugé d'abord en comparution immédiate, qui ensuite avait été renvoyé en correctionnel. Et en correctionnel, la juge a dit, non mais attendez, il y a vol avec arme, l'homophobie est signée par le motif, il a été renvoyé aux assises et maintenant il risque la perpétuité.
Là, il risque perpète, les deux d'aujourd'hui. Il risque perpétuité, c'est deux actes qui se déroulent à 48 heures d'intervalle, et le deuxième, il est particulièrement sordide, parce qu'ils ont décidé de le séquestrer chez lui. C'est jalonné d'insultes homophobes tout le temps. Ils ne veulent même pas dormir dans le lit sous prétexte que... parce que ça va durer deux jours, parce qu'ils veulent, ils se sont mis en tête de lui faire téléphoner par sa banque pour faire un virement en Allemagne. Mmh. Ils veulent vider son compte. Et donc, pendant deux jours, ils attendent avec lui le feu vert de la banque chez lui. Et lui, il arrive à un moment d'inattention à alerter son compagnon en lui disant « C'est sérieux, ne fais surtout rien, ne réponds pas à mes mails, mais je risque ma vie. » Et le compagnon, il est tout seul avec ce message et il sait pas quoi faire. Et finalement, il appelle la police. Mmh. Et la police intervient et les arrête en flagrant délit. Ils risquent perpétuité, les deux.
Une question de Christophe Barbier.
Oui, juste, vous avez évoqué la haine. Est-ce qu'on arrive à faire une typologie des racines de cette haine ? Pourquoi, quand on est jeune surtout, on a une haine des homosexuels ? Quelle est la part d'une éducation familiale où on va dénoncer le PD ? Quelle est la part de la religion, du fait religieux ?
C'est ça ce que j'allais dire.
Il y en a ? Et donc, quelle est la part de la crapulerie avec facteur aggravant? C'est, comme vous le disiez, c'est plus facile puisque c'est un homosexuel, il se défendra pas.
Mais quelle est la part de l'éducation? Ça, ce qui est frappant avec les cas, et on en a eu quelques-uns là récemment, des cas de mineurs, 14, 15, c'est exactement la génération qui aurait dû, si on avait adopté les ABCD de l'égalité en 2014, qui avait été proposée pour faire de l'éducation, c'était un début d'éducation contre les préjugés de genre, contre l'homophobie, etc. Ça avait été proposé par Najat Vallaud-Belkacem à l'époque. Ça a été le gouvernement avait dû reculer parce que des associations avaient fait croire qu'on allait apprendre aux gamins la masturbation à l'école, etc. Hop. Et depuis
le
10
ministère n'avait pas été
refait.
très clair dans son.
Mais quand les assos et toutes les personnes concernées disent qu'il faut agir dès l'école, dès la petite enfance, sur l'éducation à la différence, à l'acceptation, etc. C'est pas juste pour faire joli ou parce qu'on pense que ça peut vraiment changer les choses. Là, on est en train d'assister à l'émergence d'une génération qui est qui a Internet ouvert, le robinet d'Internet ouvert en permanence, qui a donc accès à ce genre de oui. possibilité de gagner de l'argent facile. Effectivement, sur les racines du crime, on voit que c'est les mêmes milieux que la petite délinquance, etc. Mais à partir du moment où il n'y a aucune réponse en face, ni éducative, et judiciaire, quand ça va bien,
ils ne pensent pas déposer plainte.
Et donc la part de la religion aussi, qu'on retrouvait d'ailleurs dans la contestation des ABC de l'égalité.
Oui, on l'a retrouvé. Mais d'ailleurs, en plus, c'était la conjonction, si vous vous souvenez bien, contre les ABC de l'égalité, c'était la conjonction de petites associations musulmanes et des catho-conservateurs et étaient de la Manif pour tous, qui s'étaient coalisées pour aller faire croire à cette rumeur. Mais depuis 10 ans, ils ne sont pas désarmés. Ils sont toujours là. Maintenant, ils s'en prennent aux personnes trans, ils s'en prennent aux drag queens.
Et donc, quelle réponse, Maître Cathy Richard, face à ça ? On a un site qui existe depuis 20 ans, Coco en l'occurrence, hébergé à Guernesey. On ne sait pas quoi faire.
Alors, là-dessus, sur la problématique du site, effectivement, c'est une problématique une nouvelle technologie qui est très compliquée. Mais ce qu'il faut quand même savoir, c'est que d'une part, on a dépénalisé, Dieu merci, l'homophobie, mais depuis, on a instauré le crime d'homophobie. C'est-à-dire, c'est devenu une circonstance aggravante. Ah oui. Et en cela, j'allais justement rapprocher aussi de l'antisémitisme, c'est-à-dire qu'on retrouve exactement. D'abord, on retrouve le même type d'agresseur, c'est-à-dire qu'il y a une montée religieuse antisémite et homophobe. Ensuite, on a le fait que l'idée préconçue que les juifs sont riches, mais aussi que les homos sont riches, parce que finalement, ils dépensent pas leur argent avec leur famille, etc. Donc, ils ont plus d'argent. Donc, on retrouve exactement, on cristallise exactement les mêmes choses. Et on a des jeunes qui sont absolument sans foi ni loi, qui viennent s'en prendre, ce sont les mêmes. Franchement, ce sont les mêmes qui s'en prendraient aux juifs et qui s'en prennent aux homosexuels. Ce sont strictement les mêmes. Alors, la loi le prend en considération, mais comme on le disait, il faut encore démontrer démontrer le caractère homophobe de l'agression.
Et ça, c'est souvent compliqué.
C'est très compliqué. C'est très compliqué parce que après, on peut toujours se retrancher derrière le ah ben oui, mais on savait pas. Ben oui, mais on pensait que. Ben oui, mais c'est pas parce qu'il était homosexuel. Ceci étant, là où on se rend compte en plus que quand même on est dans la cristallisation de l'homophobie, c'est dans les déferlements de violence qui sont clairement là. Identifié comme mettant, en accusation de la part de ces jeunes, le côté homophobe, l'homosexualité, c'est-à-dire effectivement des sévices qui sont de nature sexuelle. Et là, il y a des pulsions qui ressortent, qui sont effectivement cristallisées de leur part, et on ressent une vraie haine. C'est au moment où ça dérape, c'est-à-dire qu'il y a les préjugés avant et il y a le dérapage ensuite. Et tout ça, on retrouve exactement la même montée, en fait, qui va s'opposer, qui va s'en prendre aux juifs, qui va s'en prendre aux homosexuels exactement de la même manière. Et c'est dramatique. Et il y a une vraie montée. Et c'est de plus en plus jeune, incontestablement. Les jeunes sont de plus en plus jeunes à oser faire ça.
Et en l'occurrence, dans le cas des affaires dont on parle aujourd'hui, c'est 9 interpellations, 9 mineurs.
Mais là, ils sont décomplexés. C'est comme si c'était moins grave de s'en prendre à des homosexuels. C'est terrible.
Merci beaucoup. Merci à vous sur le plateau. Merci également à Sarah Brett qui était avec nous en direct. Merci à vous également. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette affaire.